il pleut, il fait nuit noire, vous êtes au mois de novembre, vous êtes en 1532, vous êtes à Cajamarca, en plein Pérou, à 2000 mètres d'altitude, il fait froid, cette pluie glacée tombe sur vous, devant vous, sur cette cour immense de Cajamarca, à l'intérieur de cette ville précolombienne, de cette ville inca, il y a 2000 morts. On vient de faire tomber Atahualpa de sa chaise à porteur. Le monde inca vient d'être renversé par un seul geste, celui de Francisco Pizarro. Atahualpa, c'est vrai, n'a aucune blessure. Il est là, tout à coup surpris d'avoir été simplement descendu si brusquement de sa chaise, car descendre l'inca de sa chaise, c'est arrêter le monde entier, c'est arrêter le soleil, c'est faire que la nuit va durer des siècles, c'est dire à tous les Indiens qui sont encore vivants que leur monde s'est véritablement bloqué. C'est un moment qui a dû être extrêmement curieux, à la fois pour les Indiens et surtout pour les Espagnols, parce que cet Indien qui est là, dans toute sa beauté, je parle naturellement de ses vêtements, de cette richesse qu'il portait sur le front, de cette mascapaicha, de ce symbole divin, de cette représentation solaire, sa chaise à porteur, tout en or, tout à coup, de retrouver ce jeune homme-là, avec son vêtement qui a été déchiré au cours de la mêlée, c'est comprendre que quelque chose s'est passé en moins d'un quart d'heure. Il y a eu 2000 morts, il y a eu cette espèce de rage des Espagnols. Il n'y a pas un seul blessé. Si, Francisco Pizarro, qui était atteint par une épée ou par un poignard, au moment où il tentait de protéger l'Inca, au moment où l'Inca aurait pu être assassiné, car on tuait tout ce qui bougeait. Ce qui était extraordinaire qu'au moment, c'est la description de cette chaise à porteur. Vous la voyez, elle est portée par des dizaines de personnes. Naturellement, ces Indiens qui sont dessous, qui sont à côté, sont comme des gardiens. Et vous êtes l'Espagnol qui plantait cette épée dans le premier. Il tombe, il est remplacé par un autre. Et vous arrivez ainsi jusqu'au centre et il faudra que le dernier porteur tombe et que Pizarro intervienne pour que finalement tout s'arrête. Et quand je dis tout s'arrête, je le répète, c'est parce qu'aucun capitaine, aucun des généraux d'Atahualpa ne va réagir. Il y avait des dizaines de milliers d'hommes dans cette plaine de Cajamarca. Il y avait plus de 2000 hommes à l'intérieur de la ville au moment du rendez-vous avec Pizarro, tous armés. Ils auraient tous pu réagir. Eh bien non, on a enfoncé les murs, les murailles de la ville pour s'enfuir. Le monde était mort pour l'Inca. C'est-à-dire que vous êtes au sommet de cette pyramide. C'est vous qui maintenez l'énergie du monde, le cosmos lui-même. Vous êtes l'Inca pour quelques secondes et tout à coup maintenant, vous êtes prisonnier. Alors, ça s'est passé en tellement peu de temps qu'on ne comprend pas comment cette puissance va s'écrouler si facilement. Je vous ai dit, la nuit était tombée. Pizarro ne peut plus prendre un seul homme dans cette obscurité, donc il demande en fait, il fait d'abord sonner les trompettes, il demande à tout le monde de se retirer, de se rassembler et d'arrêter de tirer avec les arquebuses. On va faire encore quelques prisonniers, on voit ces cavaliers qui reviennent de la plaine, qui reviennent des champs, qui sont déjà plongés dans l'obscurité. La place est maintenant silencieuse, aussi silencieuse que si rien ne s'était passé dans cette soirée du mois de novembre 1532. Les morts sont encore couchés dans la position où ils ont été tués, où ils sont tombés. La nuit est fraîche, on sent cette fraîcheur d'ailleurs qui recouvre le tout. Et près des pentes de Pultamarca, où se trouvait l'Inca, ce fantastique camp de toile qui était construit tout exprès à proximité de Cajamarca pour attendre les Espagnols, il n'y a plus un feu qui brûle. Et sur les toits de paille de Cajamarca, la pluie continue à tomber, elle continue à tambouriner. C'est vrai que ce moment a dû paraître invraisemblable. C'est vrai aussi que personne ne manquait à l'appel. Comme je vous le disais, personne n'a été blessé, si ce n'est Pissard qui gardera cette petite cicatrice à la suite de l'attaque. Mais si la veille, il y a eu tellement d'angoisse, si personne n'avait pu dormir, il y a des descriptions époustouflantes de cette attaque, où on dit que les Espagnols avaient tellement peur qu'ils en faisaient dans leurs pantalons, c'est vrai que ça a dû être un moment extrêmement difficile d'attendre comme ça, autour de dizaines de milliers d'hommes, quand vous êtes à peine quelques dizaines, à accepter cette attaque en vous disant effectivement que vous êtes un contre mille, grosso modo. Donc ce soir-là, après la bataille, après avoir gagné, ça a été l'ivresse, ça a été la joie, mais une joie qui permet ainsi de terminer quelque chose qui a été encore plus incroyable. C'est ce voyage fantastique. Ce voyage qui est parti de Panama, qui vous a obligé à attendre, à tomber, et ensuite à grimper sur ces cordillères. Imaginez ce que ça a dû représenter pour ces hommes qui s'étaient engagés comme cela, tout à coup, à faire le voyage impossible. Ces 13 hommes, par exemple, qui ont traversé cette frontière invisible que Pissarro avait tracée sur le sable, afin de leur dire, c'est vers le sud qu'il y a de la richesse. Si vous abandonnez, vous n'aurez rien. Si vous rentrez à Panama, vous n'aurez rien. Et quand j'ai failli dire Cortés tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est à lui qu'on pense. Pissard, il a gardé la tête froide dans ce moment précis. Il savait que maintenant, son succès, c'était tout à fait le succès que son cousin avait eu là-bas en 1519, en 1521, au Mexique. Hernán Cortés, c'est son nom qui s'est inscrit à ce moment-là dans l'histoire du monde entier. Tout le monde connaît la conquête du Mexique. À partir de ce soir, à Caramarca, on peut dire que Francisco Pizarro est lui aussi rentré dans l'histoire. C'est un moment qui a dû être assez curieux pour cet homme qui a 52 ans, qui est un vieillard et qui, sur le tard, a décidé de refaire quelque chose d'incroyable, une dernière énergie. Et nous irons jusqu'à la mort de Francisco Pizarro, parce que c'est il y a quelques années là qui sont tellement étranges dans la compréhension de l'histoire de l'Amérique. Et en même temps, cet homme, eh bien, c'est le dernier homme du Moyen-Âge, peut-être. Je dis cela parce qu'en 1541, au moment où il va mourir, où il va être tué dans son palais de Lima, on se rend compte que l'Espagne a été au Moyen-Âge jusqu'à la fin de la conquête de l'Amérique. Après Cortés, après Pissard, eh bien, ça n'est plus la conquête, c'est la colonie qui s'installe, c'est un nouveau monde qui s'ouvre, la Renaissance est là et ensuite le Baroque. Oui, je dis la fin du Moyen-Âge parce que après avoir pris toute l'Espagne aux musulmans, on va prendre toute l'Amérique avec des hommes qui sont en fait des chevaliers et non pas des hommes de guerre comme on les conçoit au moment de la Renaissance. Revenons peut-être à Caramarca, revenons à Pissarro et imaginons maintenant qu'il va faire apporter des vêtements neufs à l'Inca. Et tout de suite après cette défaite, on va prendre soin justement de ce grand chef indien. Et pourquoi est-ce qu'on en prend soin? Parce qu'on est chevalier. C'est-à-dire qu'on doit le faire comme si on était un chevalier. Lorsque quelqu'un est vaincu, on le respecte. Et ça, c'est aussi assez nouveau, même si dans quelques minutes ou dans quelques heures, on va pouvoir vivre d'autres instants tragiques, y compris la mort de l'Inca. Atahualpa, il avait été naturellement bouleversé par cette catastrophe. Il n'avait absolument pas bronché. Ça, c'est assez curieux. On sait, d'après les chroniqueurs, qu'il n'y a pas eu un seul mouvement, ni de sa part, ni de celle de ces milliers d'hommes qui étaient présents. Et pendant toutes les minutes d'angoisse qu'il a aussi vécues sur cette place, il a été en même temps complètement incapable de prendre une décision. Il n'a pas dit un mot. Aucun officier n'avait stoppé, en fait, ce moment de panique. Rien ne s'était produit. Et ils ne se sont pas battus car, en fait, les Espagnols l'ont remarqué, personne ne leur l'avait dit, personne ne l'avait commandé. Donc le signal convenu, on pourrait dire, n'a jamais été donné. Ces hommes n'ont même pas utilisé une fronde, une massue qu'ils avaient sur eux. Alors maintenant, Pissarro, il va laisser son prisonnier dans sa chambre pour la nuit. On l'a installé dans un de ses propres palais à Caramarca. Et on va mettre naturellement une garde spéciale en place. Et tous savent que leur salut, il dépend uniquement de cette vigilance. Parce que si par hasard, l'Inca arrivait à s'échapper à ce moment-là, tout recommencerait. Alors, on peut aussi comprendre qu'après la joie, il y a eu une certaine tension qui s'installe. On va répartir des sentinelles, il y aura des patrouilles un peu partout, on va contrôler les relèves. Cette nuit froide, cette pluie dont je parlais tout à l'heure, qui tambourine sans trêve sur tous ces toits, vous savez, ce sont des toits plats, les toits incas, les toits précolombiens sont extrêmement bas, il n'y a en principe qu'un étage à toutes ces maisons et à ces palais, et ça tombe sur cette place silencieuse et sur ces cadavres qui n'ont toujours pas été enlevés. Caramarca, c'est un lieu que j'aime aussi voir le matin. C'est un endroit où j'aime retourner parce que c'est peut-être le plus chargé d'histoire de tout le Pérou avec Machu Picchu que vous connaissez déjà ou Cusco, nous irons encore. Le lendemain, au petit jour, c'est exactement la même chose. Lorsque je sors de mon hôtel ou de l'endroit où je dors dans cette petite ville, il y a quelque chose de curieux à 2000 mètres d'altitude. C'est ce climat, c'est cette fin de pluie, justement, cette humidité étrange. Et puis vous voyez toutes ces cordillères aux alentours et vous voyez cette espèce de colline qui est au nord de la ville qui permettait et qui a permis à Pissard de s'installer avec des bombardes, de bien surveiller l'ensemble. Et j'aime bien y monter à pied parce que tout à coup, on revoit la Caramalca précolombienne. On revoit devant la cathédrale cette immense place vide. On imagine ces palais blancs et rouges aux alentours. Et pour la première fois, Pissard se retrouve dans des fonctions qui n'existaient pas en fait auparavant. Elles avaient déjà été données à cet homme à Tolède. Vous vous rappelez, il est reparti en Espagne, Pissard. Il a été demandé des papiers, il a été demandé des contrats. Il a vu Charles Quint à Tolède. Et c'est l'épouse de Charles Quint qui va lui permettre de devenir gouverneur de Nouvelle-Castille. Et bien maintenant, il est gouverneur de cette nouvelle Castille. C'est-à-dire d'un seul coup, 5000 kilomètres. Là, je parle de la longueur de l'Empire Inca, lui tombe entre les mains. C'est incroyable. Atahualpa était le chef suprême à ce moment-là. Et c'est vrai que maintenant, il règne sur un territoire qui va de l'Argentine à la Colombie, du Chili à Panama pratiquement. Donc cet instant a dû être aussi extrêmement curieux, se lever ce petit matin, ses fonctions de gouverneur qui maintenant lui permettent d'être l'Espagnol qui a le plus de terres sur cette planète. C'est vrai que même par rapport au Mexique, même par rapport au Guatemala, regardez la carte et vous verrez qu'il tient tout à coup la moitié de l'Amérique du Sud. Est-ce un rêve? Est-ce la réalité? Le maître du Pérou est-il réellement son prisonnier? Tout d'abord, on va charger les Indiens d'emporter les cadavres, on va nettoyer cette place, on va les enterrer. Puis Pissard va envoyer Soto avec une trentaine de cavaliers jusqu'au camp. Vous savez, ce camp où il y avait des sources chaudes se trouvait Atahualpa. Il ne savait pas ce qu'il devait faire là-bas, mais tous croyaient à la mort de l'Inca. Tous les Indiens qui étaient en dehors pensaient que l'Inca était maintenant mort. Ils ont été extrêmement joyeux de savoir qu'en fait le souverain était sain et sauf et qu'il était simplement prisonnier des Blancs. Allons visiter ces sources chaudes, cet étrange bain, ces termes qui existent encore, où j'aime bien me baigner d'ailleurs. J'aime bien m'y retrouver parce que, après tout, se prendre pour l'Inca quelques minutes, ça n'est pas désagréable dans une source à 40 degrés quand vous êtes à 2000 mètres d'altitude. Vous êtes avec Soto et vous regardez ce camp de toile qui a été abandonné, qui est un peu triste. Il n'y a que quelques femmes, il y a des vieillards qui sont là, mais il n'y a plus le chef, il n'y a plus d'Inca. Et lors de la première visite, Soto l'avait senti différemment. Il avait d'abord été très inquiet. C'était la première rencontre d'un occidental avec ce chef suprême, ce fils du soleil. Et dans le fond, il y avait toujours cette place entourée d'une clôture. C'est là qu'il avait vu à Atahualpa, au milieu de sa cour, là où se dressait sa demeure personnelle. Bon, c'était pas très grand, mais c'était magnifiquement aménagé. Au centre de la cour intérieure, il y avait, comment vous dire cela, deux canalisations en pierre qui amenaient les eaux. D'abord, il y avait des sources chaudes qui venaient d'un côté et puis de l'eau froide qui venait de l'autre, avant de tomber dans un bassin qui était fantastiquement taillé. Un bassin qui existe encore aujourd'hui, parce qu'on sent bien que l'aménagement contemporain a suivi, en fait, l'ancien aménagement inca. Alors là, on pouvait mélanger les deux eaux. Il y avait même une conduite qui était plus grande et qui permettait d'obtenir exactement la température désirée. Le pavillon où se trouvait normalement l'Inca, il n'y avait que quatre pièces, quatre grandes salles qui étaient décorées de peintures extrêmement brillantes. Et là, les Espagnols ont dit que c'est ce qu'ils avaient vu de plus beau dans toute l'Amérique. C'était la première fois qu'ils tombaient sur un pavillon palais pur et parfait, enfin une véritable résidence. Alors maintenant, vous êtes en train d'inspecter le camp et vous allez pour la première fois pouvoir amasser des richesses, des bijoux d'or, de l'argent, il y avait des tissus. Alors les tissus, c'est important parce que c'est sacré pour un Inca. Ils étaient d'une finesse fantastique. Les Espagnols les ont comparés à ce qu'ils n'avaient jamais vu d'aussi beau en Flandre ou, je sais pas, en Espagne, dans le sud, à Mérida del Campo. C'est-à-dire les cotonnades les plus fines. Pensez à la vigogne, pensez à l'alpaca, pensez à ces laines extrêmement... Je reparle toujours de ce qui me fascine complètement. Le vêtement le plus fin pour l'Inca était en principe travaillé en brocart, enfin extrêmement fin dans son tissage, était travaillé avec du fil qui était pris à des chauves-souris. C'est vous dire à quel point on allait dans le raffinement par rapport au textile et qu'il était justement sacré puisque l'Inca n'avait le droit de porter un vêtement que quelques heures, quelques minutes et qu'ensuite personne n'avait le droit de le reporter, même pas lui. C'est-à-dire qu'on le brûlait et qu'on le réoffrait aux dieux et au soleil. Maintenant, vous êtes aux alentours de midi dans cette deuxième journée et vous avez une sorte de procession maintenant qui se dirige vers Cajamarca. Et c'est quelque chose qui est bien différent de celle qu'on a vue le jour d'avant, car il y a des centaines d'hommes, il y a des femmes qui vont maintenant former, en fait, ou reformer la cour de l'Inca. Il y a des lamas qui suivent derrière, ils sont chargés des trésors qu'on a repris dans le camp et qui sont simplement destinés au ravitaillement, parce qu'il faut manger, bien sûr. Et les Incas étaient riches de ce ravitaillement. Les Espagnols sont toujours heureux de pouvoir réunir ces marchandises. Et lorsqu'on montre à l'Inca les objets, enfin, ces choses en or, en argent, il a simplement dit sur un ton un peu dédaigneux que c'était des choses bien ordinaires et que les plus belles avaient déjà été emportées par ses généraux, ses guerriers ou ses officiers, bien sûr. Et qu'il y avait là des coupes, des plats, des pichets d'or, comme on les faisait à l'époque précolombienne, ces énormes pichets. Tout cela, si on fait le calcul, ma mémoire est assez bonne par rapport au peso d'or. Je sais que ça vaut 4,08 grammes par peso. Et on a quand même, ce seul jour, on a déjà récupéré 40 000 pesos d'or dans ce campement. Et l'Inca prétendait qu'il n'y avait plus rien. Je vous fais la conversion, ça fait à peu près 160 kilos d'or. Pour une première matinée, c'est pas trop mal. Et il y avait aussi des tissus, ça je vous en ai parlé, ces tissus précieux. Et puis quand même une bonne quinzaine de grosses, belles émeraudes. Maintenant, on savait, parce que sur la côte, les premières qu'on avait trouvées, on les cassait au marteau pour voir si c'était du vrai, parce qu'on pensait que ça devait être plus solide que cela. Et on a gaspillé ainsi des centaines d'émeraudes. Non, maintenant, on savait que ça avait une certaine valeur et l'Inca avait toujours conservé ces pierres précieuses qui venaient en principe de Colombie. Alors maintenant qu'on s'est aménagé une sorte de cour à l'intérieur de Cajamarca, de partout, c'est-à-dire des territoires voisins, on a vu arriver chaque jour des caciques et tous les chefs locaux, puisqu'on savait que l'Inca était encore vivant, il venait rendre hommage aux vainqueurs, ça c'était la première idée, aux vainqueurs étrangers, mais leur visite, vous pensez bien qu'elle s'adressait d'abord au souverain et à l'Inca, et qu'il se retrouvait devant lui exactement comme il l'était dans la cour principale, ou à Quito, ou comme il l'aurait fait à Cusco. Donc il voulait surtout voir ce fils du soleil, et dans tout l'Empire, on était conscient que la guerre, la paix, qu'est-ce que je peux dire, les semailles par exemple, les récoltes, tout était aux mains de l'Inca. Il était, là je crois que c'est vraiment le résumé, il était le Pérou de l'époque, il était en fait le Tahuantinsuyu, il était l'Empire des quatre parties, il était le pays lui-même. Et c'est en lui et par lui qu'on pouvait exister. Donc vous comprenez mieux l'importance de ces visites et le fait qu'on voulait remettre un certain moteur en route. Parce qu'au fond, rien ne pouvait fonctionner, on ne pouvait pas, imaginez-vous, qu'on ne puisse pas, comme paysan, planter un seul grain de maïs si l'Inca, au début de la saison, n'avait pas planté le premier grain de maïs. On aura même plus tard des guerres contre les Espagnols qui seront abandonnées. Or, ils gagnaient, ils avaient pris la ville de Cusco, abandonnées simplement parce qu'il fallait faire ces cérémonies par rapport aux récoltes ou par rapport aux semailles. Et on se retirait, l'Inca allait planter son grain de maïs et il perdait la guerre. Il perdait son pays, son empire, simplement parce qu'il fallait remettre les pendules à l'heure et qu'il fallait relancer l'agriculture. Ça paraît insensé, mais ça vous montre à quel point ce personnage avait quelque chose de magique par rapport aux habitants de l'Empire. Donc les relations entre les vainqueurs et ceux vaincus, elles vont se développer maintenant par les premiers mois, dans un climat Moi, j'appellerais ça un climat de confiance réciproque. C'est assez curieux que ça ait pu fonctionner. L'Inca, bon, il a toujours eu des interlocuteurs. Et ceux qu'il préférait parmi les Espagnols, je les cite parce que c'est important pour l'histoire. Il y avait Soto, qu'on vient de rencontrer tout à l'heure lors de la visite du camp. Mais il y avait aussi le frère de Pissarro, Hernando. Et enfin, Pedro, qui était également un Pissarro et qui était devenu le page de l'Inca. Donc, on sent déjà trois Espagnols qui vont comprendre l'Inca, qui vont essayer de l'aider. Ben, curieusement, vous verrez qu'effectivement, à l'heure de la mort de l'Inca, quand il s'agira de l'étrangler, de le supprimer, on avait naturellement fait partir tous ces gens-là, puisqu'ils étaient d'avance les défenseurs de l'Inca. Mais là, j'avance un peu dans l'histoire, parce que si vous êtes maintenant dans ce palais à Caramarca, ce qui me paraît étrange, c'est la facilité de l'Inca à fonctionner comme un occidental. La première chose qu'il va faire, c'est apprendre à jouer aux cartes. Il va jouer au tric-trac. Donc, il va petit à petit s'habituer aux Espagnols. Et je vous donne un exemple. Là. On va même... On sait très bien par les chroniqueurs qu'un Espagnol avait emporté depuis l'Espagne, hein, ce n'est pas à côté, hein, n'oubliez pas qu'on est à 12 000 km et que c'est la première fois qu'on vient en Amérique du Sud, la première fois qu'on touche le Pérou, quelqu'un avait emporté un chat. Et ce chat avait fait tout le parcours, il était monté les cordillères, il faisait partie des bagages. Et quand l'Inca a vu cet animal, immédiatement il a voulu l'obtenir, donc il a dû l'acheter. Alors donnez-moi un prix. Eh ben, on va monter effectivement petit à petit jusqu'à 1000 pesos d'or. Ça fait 4 kilos quand même, hein. Ça, c'est sûrement le chat le plus cher de l'époque en achat et en vente. Hein. Alors, ce qu'aimait bien l'Inca, là, je me rappelle, c'est qu'il trouvait toujours amusant que ce chat parte chasser les souris, parce qu'il ne l'avait jamais vu, bien sûr. C'est la première fois qu'il voyait un petit félin comme ça. On avait l'habitude du jaguar de la jungle, mais pas du chat. Donc, il va l'apprivoiser. Et puis, il a encore trouvé un autre animal qu'il a payé très cher aussi. Je crois qu'il a payé carrément le double du chat. C'est un faucon. Ça l'avait beaucoup fasciné parce que tous les animaux fascinent les précolombiens. Être un aigle, c'est être un peu le soleil. Être un condor, c'est une représentation que tout le monde connaît. Et le condor passa. Mais enfin, ces animaux symboliques, ben, être faucon et avoir réussi à apprivoiser un faucon comme on l'avait fait en Europe, ça signifiait tenir un peu le pouvoir de cet animal, obtenir en même temps ce pouvoir. Alors, il l'a naturellement acheté aussi. Alors, quand je parle de cupidité, quand je parle d'argent, quand je parle d'or, bah, c'est parce que je veux vous intéresser au trésor et j'aimerais vous faire comprendre comment on va en arriver à la rançon d'Atahualpa. Et bon, ça n'ouvrait malheureusement pas toutes les portes, mais c'est Atahualpa qui a dû penser qu'après tout, sa prison pourrait peut-être aussi s'ouvrir s'il payait suffisamment cher sa libération. Vous me direz qu'on est dans une époque où on est habitué à ce genre de trafic, mais à l'époque, payer une rançon, ça n'était pas une chose courante, et encore moins pour un Inca. Et là, il s'est dit peut-être que s'il arrivait à amasser un butin assez important, bah, il arriverait peut-être à obtenir un résultat. Pour lui, c'était très facile, je ne sais pas, par exemple, de couvrir le sol de la salle où ils étaient en train de discuter. Là, il en parlait comme ça avec les Espagnols, puis ça arrêtait présent. Alors bon, tout le monde s'est mis à sourire, c'est une bonne plaisanterie. Mais alors, l'Inca, tout à coup, il est devenu extrêmement sérieux. Vous voyez la scène, là, il est assis sur un trône, c'est un peu lui qui commande, malgré le fait qu'il soit vaincu, il est dans sa propre salle, dans son propre appartement, et tout à coup, là, par cette gravité, il va simplement se lever, et il fait une marque sur le mur. Ça, c'est de la légende, mais croyez-y, c'est vraiment comme cela que ça a dû se passer, parce que c'est lorsqu'on imagine la scène qu'on commence à comprendre. Il s'est levé, c'est un homme très grand, il a levé son bras, bah, il a dû arriver à 2,20 m, 2,50 m, grosso modo. Et il a marqué simplement cette hauteur, et il a dit simplement qu'il allait remplir cette pièce, qu'il jurait de pouvoir remplir cette pièce d'or, et qu'il pourrait en remplir deux identiques d'argent, si on lui laissait simplement la liberté en échange, c'est-à-dire si on lui offrait la liberté, et que... Bon, là, tout à coup, vous imaginez la tête de Pissarro, qui devient lui aussi très sérieux, et l'unique question qui vous préoccupe, c'est combien de temps est-ce qu'il faudra pour remplir ces trois coffres-forts? Ben, irréponsablement qu'en 2 mois, il peut y arriver sans aucune difficulté. N'oubliez pas, il y a 5000 kilomètres de route dans l'Empire Inca. Et déjà dans votre tête, vous voyez démarrer la scène. Vous voyez effectivement, non pas ces dizaines, non pas ces centaines, mais ces milliers de lamas qui vont commencer à marcher de tout l'Empire et de tous les points forts de l'Empire, les points riches de l'Empire, pour drainer cette richesse, ces larmes du soleil, vos propres larmes, si vous êtes Atahualpa, jusqu'au centre du monde, qui est maintenant Caramarca, puisque c'est là que vous êtes fait prisonnier, ces larmes de la lune, cet argent, qui va remplir petit à petit ces deux salles, ceci, soi-disant, sur 2 mois. Alors, bien sûr que l'Inca a compris aussi qu'il y avait une autre chose à dire, c'est-à-dire que c'est plutôt Pissarro qui va lui dire, mais en fait, pour qui sera payé cette rançon? Il est malin, Pissarro. Et obligatoirement, l'Inca a compris parce que il va lui dire simplement que c'est naturellement une chose qui doit être donnée à cette armée qui a réussi sa capture. Donc il est suffisamment large. Il dit, mais c'est pour vous tous. C'est pour tous ceux qui ont réussi à me vaincre. Donc tous les Espagnols présents, tous ceux qui étaient venus de Panama. Alors, maintenant, rentrez avec moi dans la salle. Elle existe toujours. C'est une des seules salles Inca qui reste encore à Caramarca. Je ne vous dirai pas que le trait rouge qui est mis à 2,50 m a forcément été tracé par la main de l'Inca ou par les Indiens de cette époque. Mais c'est vrai qu'on est très touché par ces murs parfaits. Vous savez, cette sculpture tellement rigide et tellement parfaite des Incas. Et cette pièce qui fait, je sais pas, 6 ou 7 mètres de longueur sur 4 ou 5 de large. C'est vrai qu'elle est impressionnante quand on l'imagine pleine. Bah, c'est une offre absolument inouïe. C'est une chose absolument fantastique. Pensez que tout à coup, l'économie entière de la planète va être transformée à cause de cet endroit, à cause de ces tonnes d'or qui vont déferler sur l'Europe. Pissard, bah, lui aussi, il a le souffle coupé, comme tous les Espagnols, mais il va accepter la proposition en étant quand même assez paperassier, puisqu'il va faire rédiger un acte officiel dans lequel on dit qu'Atahualpa reçoit la promesse formelle, solennelle, qu'il sera libre quand il aura payé sa rançon. Quand cette rançon aura atteint le trait qui est maintenant, allez, on va le renforcer de rouge, on va le marquer à 2,50 m de hauteur. Mais à la même époque, il y a quelque chose d'assez curieux qui parvient à Caramarca. Ce sont les informations. C'est uniquement l'Inca qui est au courant par ses espions. Oui, on dit qu'il y a de nouvelles troupes d'hommes blancs qui arrivent là-bas, très loin sur la mer, du côté de Tumbes, dans le nord du Pérou, à la limite même avec l'Équateur. Bah, c'est très inquiétant pour l'Inca, parce que s'il y a encore plus d'étrangers, s'ils sont tout aussi forts que les premiers, bah, comment est-ce qu'on pourra négocier? Ça va être pratiquement impossible. Et voilà pourquoi des courriers très rapides vont se rendre maintenant vers toutes les trésoreries de l'Empire Inca, à Quito, à Cusco, à Pachacamac, sur la côte, oui, et même, vous savez, l'île du Soleil, celle du lac Titicaca, avec un ordre extrêmement urgent d'envoyer Sandalé à Caramarca, de faire venir à Caramarca tout l'or de l'Empire, tout l'or disponible. Accord est passé, oui, cet accord entre Pissarro et Atahualpa. Et curieusement, un jour, parce qu'ils se rencontraient tous les jours, Pissarro voit que l'Inca est dans un état de découragement qui n'est pas du tout coutumier chez lui. Bah, il lui demande ce qui lui arrive et en fait, il dit bah, « Écoutez, je suis extrêmement triste. Je sais maintenant que vous allez me tuer. Bah, pourquoi est-ce que je te tuerais ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai reçu de mauvaises nouvelles. Et oui, sans que j'y sois pour rien, et surtout contre ma volonté, mes officiers ont fait assassiner Huascar. Vous savez qui est Huascar? Eh bien, c'est le frère d'Atahualpa. C'est le frère qui aurait dû obtenir le vrai pouvoir et qui avait le vrai pouvoir à Cusco. Il y avait deux fils, les deux plus importants, les deux plus forts, de Huayna Capac. Huayna Capac qui était mort de la variole à Quito en 1525 ou 1527, on ne sait pas exactement. Et c'est vrai qu'au moment de la succession, Atahualpa, qui est un bâtard, va prendre le pouvoir à Quito et Huascar à Cusco. Je vous résume une fois de plus la situation, mais ce qui est important, c'est de savoir que Huascar était en fait prisonnier d'Atahualpa au moment où Atahualpa va être fait prisonnier par Pizarro. Et là, vous allez voir à quel point un Indien peut être extrêmement raffiné, politiquement parlant. Parce que lui, Huascar, il avait promis, et ça c'était très dangereux, quand il avait su qu'Atahualpa allait donner sa rançon, il avait simplement déclaré que lui serait capable de remplir pour ses hommes blancs, capable non seulement d'aller jusqu'au trait rouge, mais peut-être même jusqu'au plafond d'une salle comme celle de Caramalca. Donc, il y avait surenchère de la part du frère, de l'autre frère prisonnier. Et pour obtenir en échange réparation du tort qui lui avait été fait, puisqu'il était aussi coincé que son propre frère, ben, il avait déclaré cela. Et ça, Atahualpa, prisonnier, en avait tenu compte, il était au courant. Et il y a un grand chef, là, je vous le nomme quand même, il s'appelle Chalicuchima. C'est un joli nom d'ailleurs. Il va apprendre que son maître, qui n'était que prisonnier, se portait très très bien. Il va mettre au courant des projets de Huascar et il va demander des ordres afin de savoir ce qu'il faut faire. Et c'est à ce moment-là, vous imaginez maintenant, hein, qu'on est en train d'être dans la salle où Pizarro reçoit l'information. C'est-à-dire qu'au moment où Atahualpa jouait à Pizarro la scène du chagrin, le grand officier est dehors et il attend pour savoir ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'au moment où il annonce la mort de son frère est vivant. Et ça, c'est la fin, c'est d'Atahualpa. Sa ruse est très simple, mais elle est... Enfin, à mon avis, on ne peut pas trouver plus efficace. Pizarro va tomber en plein dans le panneau. Il va consoler, il va apaiser l'Inca, et il va lui dire qu'il n'est pas responsable de cet acte et qu'il n'a pas pu l'empêcher. Alors au moment où Atahualpa est sûr qu'il ne va pas être puni pour avoir assassiné son frère, eh ben, immédiatement, il donne l'ordre et le Chalchicuchima, là, notre brave chef, va s'empresser d'obéir consciencieusement. Donc l'Inca de Cusco va faire abattre son frère. Bien sûr, l'Inca de Cusco est maintenant abattu et son corps va être jeté, on le sait. Ça, c'est terrible. Jeter un corps d'Inca dans un fleuve comme le fleuve Andamarca, ça signifie qu'on ne pourra plus le retrouver. Mais ça signifie aussi que c'est un meurtre qui est particulièrement horrible parce que quand on pense que d'après la croyance Inca, la survie, dans l'au-delà bien sûr, était détruite par l'eau et par le feu, ben, c'est vraiment une façon de supprimer, de renvoyer complètement au néant son propre frère. Alors Pizarro, il ne doute de rien. Et tant qu'Atahualpa arrivait ainsi à le berner, tout irait bien. C'est vrai que le destin de Huascar va contribuer en fait à susciter, je parle de Cusco, je parle de la vraie capitale, une certaine sympathie pour les Espagnols. Là on vient de voir un virage. Hein. Atahualpa a trouvé de nouveaux ennemis, c'est-à-dire que ses propres frères, ses propres chefs qui sont maintenant contre lui, c'est aussi un risque, parce qu'on prend tout à coup parti pour ceux qu'on appelle déjà les Viracocha, les dieux du soleil vengeurs, hein, les Espagnols, qu'on appelait d'ailleurs couramment Viracocha. Alors à Caramarca, là j'étais un petit peu lent sur cette petite histoire, mais c'est simplement pour vous montrer que ça n'est pas si simple que cela. Quand on parle de la conquête du Pérou, on arrive tout de suite au résultat. Ben non, ce sont des mois et des mois d'attente qu'on est en train de vivre au moment où on paye cette rançon. Et maintenant, sans arrêt, il y a ces courriers de l'Inca qui sont chargés de l'or de la rançon. C'est vrai, la chambre est grande, mais la marque est extrêmement haute aussi. Et le niveau, ben, il monte un peu trop lentement, c'est-à-dire trop lentement au gré de tous ces Espagnols. Allez, vous êtes devant le coffre-fort le plus important du monde. Vous le voyez se remplir devant vous. Vous sentez qu'il y a une tension, vous savez que vous êtes quand même en danger. Il y a environ 12 millions d'Indiens autour de vous qui pourraient être vos ennemis. Vous n'êtes que quelques dizaines de blancs perdus comme cela en plein Pérou, à plusieurs centaines de kilomètres de vos bateaux. Donc on comprend bien qu'avec l'arrivée d'Almagro, c'est celui qu'on avait annoncé tout à l'heure, l'Inca va remarquer un accroissement de la tension entre les blancs eux-mêmes, parce qu'obligatoirement maintenant, tous les nouveaux arrivés vont vouloir aussi une part de la rançon. Almagro, ce n'est pas un nouveau, puisque c'est l'allié même de Pizarro, et c'est celui qui est toujours reparti à Panama pour aller chercher des renforts, pour aller chercher des bateaux. Mais l'or vient trop lentement et Pissard va en somme essayer de gagner du temps. Il sait que les distances sont grandes, il sait que quand l'Inca lui dit qu'il faut pratiquement parcourir 200 lieues jusqu'à Cusco, que pour aller jusqu'à Pachacamac, qui se trouve au sud de Lima, il faut parcourir toute la côte, ça fait pratiquement, je sais pas, il y a en tout cas 1500 kilomètres, même plus, quand vous descendez encore jusqu'au lac Titicaca, c'est vrai qu'il faudra peut-être aller plus vite. Et l'Inca prétend que, après tout, ils pourraient y aller eux-mêmes, et qu'ils pourraient créer une sorte d'expédition. Et on va partir, c'est-à-dire qu'on va envoyer des patrouilles, et là, je vais prendre quelques instants, parce que si on parle de voyage, si on parle de tourisme, pensez à ces premiers Espagnols, ils ne sont que trois, qui vont voir la ville de Cusco telle qu'elle était. Après eux, c'est fini. Personne ne reverra Cusco comme ça. Et ces patrouilles, je parle de ces trois soldats parce qu'on connaît même leurs noms. Hein. Ce sont les chroniqueurs, nous ont beaucoup parlé d'eux. Et bon, on leur reproche beaucoup de choses parce que ce n'étaient pas des gens très intelligents. Il y a Pedro Martín de Mojer, il y a Francisco Martínez de Alcántara, ouais, je suis bien informé. Il y a aussi Martín Bueno. Et bien, ces trois touristes étaient en fait de simples soldats, des simples hommes de troupe. Et leur seul avantage, c'est qu'ils parlaient la langue du pays, ce qu'on appelle le runasimi, c'est-à-dire le quechua. Hein. Ils étaient capables de communiquer. Mais malheureusement, ces Castillans n'étaient pas du tout... n'étaient pas du tout intelligents au sens du contact. Parce que, bien sûr, ils vont être beaucoup trop aidés pour le voyage. Il y a une certaine pompe, ils vont être transportés. Vous voyez la scène. Depuis Cajamarca, vous allez faire vos centaines de kilomètres sur une litière, hein, comme si vous étiez l'Inca lui-même. Et ce sont des hommes qui vont vous porter au pas de course à travers les montagnes, et à travers ces vallées jusqu'à Cusco, jusqu'à la capitale, qui, elle, est à pratiquement 4000 mètres d'altitude. Et à chaque endroit, à chaque halte, les curacas, les chefs, la population vont vous réserver un accueil absolument respectueux, le même qu'on aurait eu pour l'Inca. Et bon, c'est vrai qu'ils avaient presque l'impression d'être adorés, en fait, parce qu'ils étaient les nouveaux dieux, les nouveaux chefs du moment. Et les trois hommes, bon, ils n'étaient peut-être pas faits pour recevoir autant d'honneur, et ils portaient des vêtements qui avaient été donnés par l'empereur. Mais malgré tout, c'était des soldats vulgaires. J'insiste là-dessus parce que ils se moquaient des gens, ceux qui se prosternaient. Ils regardaient les gens de manière tout à fait naturelle, ce que n'aurait jamais fait un Inca, qui au contraire aurait détourné les yeux. Enfin, il y a eu plusieurs erreurs comme cela. Et ils se prenaient vraiment pour des gens supérieurs. Et l'escorte, souvent, elle va susciter une certaine colère chez l'indigène. Et le mécontentement, ça va détruire quelque chose qui était bien important, c'est-à-dire la confiance. Hein. Et le pactole, ce qui aurait dû arriver à Cajamarca, il va de nouveau recommencer à couler trop lentement. C'est-à-dire, au lieu d'accélérer la chose, ces trois hommes vont plutôt faire baisser le flot d'or qui vient d'ailleurs. Par contre, comme ils avaient un certain rôle, ils vont être les premiers à rentrer dans la ville, ça je le disais, et ils vont... Ils vont surtout rencontrer Quisguis, qui est le gouverneur de l'endroit, et ils vont réussir à obtenir ce qu'on appelle le trésor de Coricancha. Coricancha, quand je le traduis en français, c'est l'enclos de l'or. Ça existe encore, hein, il y a une église maintenant sur le Coricancha. C'est un endroit qui fait rêver. On sait, d'après les chroniqueurs, qu'il y avait un jardin en plein air et que ce jardin représentait le monde entier, tout le cosmos, tous les animaux, toutes les plantes du monde, et tous les hommes, bien sûr, et tous les rangs de la société. Et que tout cela était sculpté, était fondu par de petites statues, étaient forgées à partir de statues en or. Donc c'est un véritable jardin, à la fois zoologique et botanique, complètement découpé dans des feuilles d'or. C'est un endroit que les Espagnols ont trouvé absolument éblouissant. Il n'y a que ces trois hommes qui vont le voir, puisque ce trésor va être enlevé et qu'il va être ramené à Cajamarca. On aura naturellement les fontaines, les immenses, les milliers de plaques d'or, les centaines de plaques d'or qui recouvraient le sommet des temples. Quand je parle du sommet des temples, c'est l'endroit qui est exactement à l'ombre, vous savez, sous le toit, qui donne un reflet absolument curieux au bâtiment. On imagine cela, on ne l'a jamais vu, que ces trois hommes ont pu observer ce genre de décor à Cusco. Et là, nous sommes déjà en 1533, parce qu'il y a plusieurs mois qui passent, et là, je reprends un cas pour le mois d'avril, là, au moment où ils reviennent à Cajamarca, ils sont très chargés, bien sûr, et parmi les objets précieux, on sait par exemple qu'ils ont rapporté un... Comment l'appeler, une sorte de tabouret. un tabouret en or. Je me rappelle même qu'il pesait 83 ou 85 kilos de matière pure. Hein. Et on disait qu'il avait été arraché d'un endroit où il était enchâssé dans la pierre. Et que la légende voulait qu'il avait. Enfin, on disait qu'il servait de siège au soleil. Donc c'était vraiment sûrement le trône le plus incroyable que les Incas aient forgé et fondu. Et qu'il y avait aussi une statue d'or. Ça, on n'en a jamais entendu parler, on ne l'a jamais revu. Mais ce siège, par contre, il va être donné à Don Francisco Pizarro. Il va le prendre simplement comme objet décoratif. Et ça vous montre à quel point certains de ces objets ont pu au départ échapper à la fonderie, parce que on va mettre en place 9 fonderies pour arriver à récupérer en lingots tout ce que les Incas vont livrer. Alors la deuxième délégation, je vous en parlerai aussi, elle a été amenée à visiter une autre région du Pérou, c'est Hernando. Hernando, c'est un garçon intelligent, c'est le frère de Pissarro. Il va partir à Pachacamac, dans cette vallée de l'Aurine qui se trouve juste au sud, ça doit faire 25-30 km au sud de Lima, la capitale actuelle. Et là, c'est tout au bord de la mer. C'est un site que j'aime beaucoup visiter parce qu'on entend le bruit du Pacifique, on voit ces immenses vagues blanches qui arrivent. Alors là, vous venez de changer de monde, hein. Vous êtes dans un désert parfait autour de vous, il n'y a que du désert, il y a juste cette vallée de l'Aurine qui est complètement verte parce qu'il y a d'irrigation, mais vous êtes dans un désert, avec une énorme pyramide au bord de cette plage et un immense ensemble de temples. Pachacamac, c'était la divinité la plus forte de toute la côte du Pérou. Et c'est sûr que c'était assez loin parce qu'il a fallu descendre jusqu'à la côte. Et là, il y avait un des frères d'Atahualpa, Illescas, qui était en route avec un trésor de 300 000 pesos. Il arrivait dans l'autre sens avec 1 200 kilos d'or d'un seul coup, sans parler de l'argent. Eh bien, c'est ce croisement, cette visite à la fois de Pachacamac et cette immensité du trésor de ce dieu Pachacamac qui, moi, me laisse rêveur, parce qu'aujourd'hui il ne reste que du sable, il n'y a plus qu'un peu de boue séchée, il n'y a plus que ces adobes qui construisaient la pyramide. Et oui, tout est de terre aujourd'hui. Encore un petit morceau de bois, une dernière statue, une dernière sculpture de ce dieu qu'on recouvrait de sang dans son temple fermé, comme l'ont décrit ces premiers Espagnols. Pachacamac, peut-être le dieu le plus riche de toute l'Amérique. Alors, si vous avez 22 jours devant vous, on peut partir de Cajamarca et descendre sur la côte pour aller voir Pachacamac. C'est un endroit qui fait rêver, qui fait toujours rêver. J'essayais de vous le décrire tout à l'heure. Mais imaginez-vous aussi qu'il y a déjà une année que vous êtes à Cajamarca. Il y a une année qu'Atahualpa est tombé de sa chaise. Vous êtes au mois de novembre 1533. Vous êtes Hernando Pizarro. Et vous écrivez à l'audience de Saint-Domingue, à l'occasion de votre retour en Espagne, un rapport. Un rapport où vous allez parler de cette expédition. Où vous allez parler de Pachacamac, de ce qu'il appelait la cité d'Huamanchuco. Et là, il dit qu'il a été reçu par un gouverneur, qu'il a reçu l'autorisation de visiter ce que lui appelle une mosquée. Vous comprenez pourquoi je vous disais qu'on était encore en plein Moyen-Âge. Quand il parle d'un temple indigène, d'un temple inca, ils disent que c'est une mosquée, parce qu'en Espagne, une mosquée, c'est un temple d'infidèles, c'est un temple de musulmans. Et bien là, il disait qu'elle était à 100 lieues sur la côte et qu'elle se nommait Pachacamac. Et il a bien dit qu'il lui fallait 15 jours de marche à travers la montagne. montagnes, à travers les cordillères, qu'il a fallu ensuite encore 7 jours tout au long de ce rivage, en passant d'une vallée fertile au désert, ces immenses dunes qui, dans la région, peuvent déjà monter à 100, 150 mètres. Et puis, vous entendez toujours ce petit bruit du Pacifique au fond. Vous voyez ces pélicans, vous voyez ces animaux qui sont là, tous ces poissons, bien sûr, qui sont repérables parce que les oiseaux sont là pour les manger. Ce sont les mers les plus poissonneuses du monde. Il y a de temps en temps un îlot avec du guano blanchi par ces mêmes excréments d'oiseaux. Il y a aussi une ambiance très curieuse. Cette ambiance du désert, c'est quelque chose qui a dû beaucoup toucher les Espagnols, parce qu'ils sortaient de l'équateur, qui au contraire était torride, humide, qui était équatorial, enfin, où il y avait de la jungle, où il y avait de la végétation, et tout à coup, devant vous, jusqu'au bout du Chili, il y a plusieurs milliers de kilomètres de désert, avec de temps en temps ces oasis, qui par miracle permettent à l'eau, qui bien sûr provient de la fonte des neiges des Andes, de rester en sous-sol et d'être reprise par les Indiens, par des milliers de tunnels, de kilomètres, de canaux d'irrigation, et de créer ce miracle de l'agriculture qui va permettre de vivre à tous ces millions d'indigènes qui vont se placer juste face à ce Pacifique. Et puis, cette eau bien froide aussi, bien glacée, qui subit ce courant qui vient du sud. Alors, il décrit l'endroit. C'est sûr qu'il se rend compte que, après avoir traversé ce désert, ben il faut passer aussi, je parle de la cordillère par exemple, des rivières, des ruisseaux. Il y a des ponts qui sont en pierre, qui sont en bois. Mais ce qu'il a remarqué le plus, ben c'est un des seuls à les avoir vus encore en état de fonctionnement, ce sont bien sûr ces immenses ponts suspendus. On a tous lu Tintin, on a tous rêvé une fois, mais c'est vrai qu'il n'existe plus ces ponts suspendus. Il y en avait encore un au tout début du siècle qui a maintenant disparu. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il nous dit qu'il y en avait un qui était réservé pour l'Inca. Donc il y avait un pont complet qui était entretenu pour l'Inca et ses officiers, et qu'à côté il y en avait un deuxième uniquement pour le peuple. C'est vous montrer à quel point cette société était rigide, était cassante. Et les premiers sont toujours gardés, sont toujours fermés, l'utilisation des autres. Pour le simple peuple, ben, il y avait déjà un péage. Vous voyez que pour faire ces milliers de kilomètres, c'est vrai que les Incas ne se déplaçaient pas. Ils étaient fixés à vie sur l'échiquier et qu'ils recevaient les marchandises par, non pas par marchand, mais par paperassier interposé, parce que tout s'échangeait dans l'Empire. C'est que tout fonctionnait au point de vue économique. C'est peut-être l'économie la plus incroyablement socialisante que le monde n'ait jamais connue avant notre siècle. Alors là, il parle justement de tout ce qu'on rencontre en route. Il parle des entrepôts avec du bois, du maïs, des provisions. Et il voit aussi que les Indiens, ça c'est intéressant, il sait qu'ils arrivent à recenser tout cela au moyen de ficelles nouées. J'ai moi-même un quipou à la maison et c'est vrai que chaque fois que je le regarde, je m'imagine qu'une corde verte, qu'une corde rouge a une signification et que tous ces petits nœuds très curieux qui sont en bas signifient quelque chose d'autre. Donc il y a chaque fois que l'on livrait, je sais pas, des lamas, du maïs, de la chicha, enfin cette boisson fermentée, on défaisait des nœuds, on défaisait une ficelle pour en faire un autre sur une autre, de sorte que on pouvait ainsi tenir un décompte exact de tout ce qu'il y avait dans l'Empire. C'est-à-dire qu'on avait déjà le nombre d'habitants, le nombre d'enfants, le nombre de vieillards, la sécurité sociale, enfin tout ce que vous pouvez rêver d'avoir dans un état absolument paperassier, on l'avait simplement avec quelques cordelettes et des nœuds. Et les Kipukamayok faisaient des milliers de kilomètres pour décompter tout ce qui existait, tout ce qui était produit dans l'Empire. Donc vous voyez que c'est vrai, quand je dis que l'Inca était le pays, on comprend à quel point c'était vrai. Et quand ils ont été visiter ce qu'ils ont appelé leur mosquée, ben, ils ont décidé aussi que, à ce moment-là, il faudrait peut-être comprendre ce qu'était ce dieu étrange, qu'était Pachacamac. Bon, ils étaient déjà troublés par l'arrivée. Ils avaient vu que la route était beaucoup plus large juste au moment de pénétrer dans le temple, et que de chaque côté, il y avait des petits murs sur les derniers kilomètres qui protégeaient cette voie royale, véritablement, et que on trouvait également, alors plus on avançait, des auberges, par exemple, pour les voyageurs de haut rang. Donc on sentait que c'était un endroit de pèlerinage, un endroit très très fort. Et toute la côte envoie non seulement des impôts à Cusco, mais tout le monde payait quelque chose à Pachacamac. Donc, si on est situé ainsi, parfois, je sais pas, à 4000 mètres d'altitude, et qu'on est capable de payer quelque chose ainsi sur la côte, qu'on est capable de traverser ces déserts aveuglants, ben, je pense qu'on comprend que Pachacamac, ça a été le deuxième centre nerveux de l'Empire, même avant la prise de pouvoir des Incas. Et là, quand ils ont demandé de l'or, quand ils ont demandé les richesses en arrivant, on leur avait dit qu'il n'y avait plus rien, que tout avait déjà été enlevé. Mais ils ont compris, bien sûr, que tout avait été caché, car Pachacamac, bah allez, je pourrais comparer Pachacamac, puisque les Espagnols appelaient ça une mosquée, bah on pourrait le comparer un peu à la Mecque. C'était vraiment cela, parce que toutes les populations de la mer s'y retrouvaient. Et je parle de gens qui seraient venus depuis l'Équateur, qui seraient venus depuis le Chili tout en bas. Donc l'importance politique de cette expédition pour les Espagnols sur la côte, elle était sûrement plus grande. Je dirais que cet aspect du contact avec un autre monde a été plus important que le butin qu'ils auraient pu ramener. Enfin, je vous rappelle quand même les 1200 kilos qui sont venus tout seuls. Mais ce qui était surtout très important, à mon avis, c'est que tout à coup, tous ces gens de la côte se sont rendus compte que les Espagnols avaient pris véritablement le pouvoir. Et même à Pachacamac, on a dû s'en rendre compte, on a dû accepter cette allégeance au nouveau Viracocha, au nouveau dieu. Et pendant ce temps, au nord, du côté de Tumbes, Diego de Almagro avait atteint non seulement les montagnes, mais il était arrivé finalement à Cajamarca, avant qu'Hernando soit revenu de Pachacamac. Et là, il est arrivé avec 200 hommes, il y avait une cinquantaine de cavaliers, Pizarro est arrivé à leur rencontre, bien sûr, il était jusqu'au col qui franchit la dernière cordillère, et là, c'est une retrouvaille. Après dix ans de désillusion, ces deux camarades, ces deux amis vont se retrouver au sommet du succès. Vous imaginez tomber dans les bras l'un de l'autre, faire le chemin ensemble, se retrouver à l'entrée de Cajamarca. Et Almagro, qui a travaillé comme pisseur à cette conquête, se réjouit d'aller saluer l'Inca. Almagro arrive aussi, je dirais presque malheureusement, avec des fonctionnaires royaux. Des fonctionnaires de San Miguel, bon, ils sont toujours mal vus par les soldats, c'est normal, parce que c'est eux qui vont se charger de répartir l'or, c'est eux qui vont ensuite savoir ce qui revient à la couronne. Il y a toujours ce quin royal qu'il faut envoyer en Espagne. Donc c'est un peu nos braves gens des impôts, si vous voulez. Et c'est vrai que cette surveillance va être assez négative dans le contact avec l'Inca, et ça va même favoriser la mort de l'Inca à un moment donné. Et la grande entreprise de Pizarro, ce qu'il avait promis en fait au roi d'Espagne, à Charles, elle était maintenant plus ou moins réussie, mais on ne pouvait pas rester, ça vous le comprenez, indéfiniment, dans cette vallée des Andes. Il fallait que ce soit une étape, il fallait continuer. Alors on sent déjà cette tension. Il y a déjà une année qu'on est là, on est maintenant au mois d'avril, ça va faire bientôt une année et demie. Il faut déblayer la route, il faut continuer la conquête. Parce que ces gens étaient incapables de se reposer, il fallait toujours avancer. Et dans le port de San Miguel, il y a maintenant 6 bateaux qui sont là depuis des semaines. Il y a des capitaines qui sont rendus aussi à Cajamarca pour exiger le montant aussi de ces passages. Il a fallu les payer, bien sûr. Et il y a le transport du matériel. Ils veulent retourner, en fait, vers le nord. Ils veulent rentrer à Panama. Donc, chaque jour, la troupe réclame de plus en plus fort sa part de ce trésor de l'Inca. Et c'est une tâche extrêmement difficile que de garder ce trésor. Je le disais tout à l'heure, conserver un coffre-fort à moitié plein comme ça, c'est extrêmement pénible. Et la pensée même d'une simple attaque, hein. Une attaque qui pourrait faire tout perdre, j'imagine qu'on devait mal dormir à côté de ce trésor. Et je pense aussi qu'on supportait mal l'idée qu'après tout, il peut y avoir encore d'autres Espagnols qui allaient venir après Almagro. Bon, là, c'était des amis, mais est-ce que l'information n'allait pas passer à Panama? Est-ce que tout le monde ne voudrait pas venir prendre une part de ce coffre-fort, de ce butin? Donc au fond, cet état d'esprit, il tombe en fait à point nommé pour Pizarro, parce que bien que vous l'imaginez, cette marque rouge n'est pas encore atteinte, on n'est pas arrivé encore à ces 2,50 m de hauteur, mais les délais sont dépassés depuis bien longtemps, puisqu'on avait prétendu que tout se ferait en 2 mois. Donc, on décide alors avec les capitaines de fondre l'or et de repartir, de recommencer le voyage. Alors, là, vous voyez la scène. Vous avez ces 3 pièces, puisqu'il y en a 2 avec de l'argent et 1 avec l'or. Ces orfèvres, ces artisans indiens vont se mettre au travail et ils vont transformer en métal informe ce que les orfèvres avaient ciselé pendant des siècles, pendant des dizaines d'années pour l'Inca et même pour les civilisations précédentes. Ça, c'est peut-être la scène la plus difficile à supporter. Ce sont ces forges qui se mettent en route et qui, nuit et jour, vont fondre des pièces incroyables. Il ne nous reste rien de ce trésor d'Atahualpa. Je vous ai décrit des statues, j'ai parlé de ces pichets d'or, j'ai parlé de ce tabouret. Tout cela a disparu dans les voyages. À un moment donné, ça a été fondu. Tout cela traîne dans une grande banque, effectivement, sous la forme de lingots. Donc l'évaluation définitive, parce qu'il faut en parler, c'est ça que vous avez envie de savoir. Quand on parle du prix d'un tel butin, du prix d'une telle rançon, eh bien on se rend compte qu'on arrive à 1 300 000 pesos au minimum. Ça, c'est ce qu'on a réussi à obtenir par papier interposé, par homme des impôts, si vous voulez. Eh bien, si je vous traduis tout cela, ça fait quand même déjà 5 200 kilos d'or. D'or pur, parce qu'on a encore enlevé l'or qui était impur. Tout ce qui décorait les toits, tout ce qui était des statues de deuxième valeur, on les avait enlevés de ce décompte. On avait pris uniquement l'or entre 18 et 24 carats. 5 200 kilos d'or pur qui est maintenant cet or qui est maintenant transformé en lingots. Et après une délibération, bon, il y a tous les chefs qui sont là, mais il faudra partager tout cela. Il faudra donner 200 000 ducats, par exemple, aux troupes d'Almagro. Bon, ils sont déclarés satisfaits. Bah, ils avaient toute raison de l'être. Hein. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont même pas livré la bataille. Ils sont arrivés gentiment après l'heure. Et ils vont toucher leur part quand même. Et bon, le notaire royal, il va procéder à cette distribution scrupuleuse de l'or avec lequel l'Inca espérait acheter sa liberté, sa vie. Et on a un document. On a un document qui porte la date du 19 juillet. Je me suis amusé avec le temps aujourd'hui. Mais vous vous rappelez, on était parti de la mi-novembre 1532 et maintenant on est déjà au mois de juillet de l'année d'après. Donc c'est intéressant de savoir que volontairement, Pissard a voulu que pour la fête de la Saint-Jacques, le 25 juillet, tout soit terminé. Savez-vous que Pissarro a été enterré dans un manteau de chevalier de Saint-Jacques? Savez-vous que chaque fois qu'on attaquait, on criait Santiago? Depuis la première bataille en 844 en Espagne, on crie Saint-Jacques lorsqu'on a un infidèle, lorsqu'on a un païen en face de soi. Et à Caramarca, cet or avait été gagné, cette bataille avait été gagnée au nom de Saint-Jacques. Et c'est justement le jour de la Saint-Jacques que la clôture solennelle du partage sera faite. Et je crois que ce sont des détails, mais que ce moment du partage nous permet de comprendre que Pissarro avait en fait totalement tenu ses promesses. Chacun de ces hommes était devenu riche, d'autant plus que la valeur du carat était comptée au-dessus de son cours réel. Vous imaginez la fortune de chacun. Bon, les plus avisés vont emballer leur métal dans des caisses. À la première occasion, ils vont rentrer en Espagne, se faire construire des châteaux en Espagne. À côté du tas d'or, bon, on a réuni tous ces objets particulièrement remarquables dont je vous parlais tout à l'heure, ces cadeaux qui vont être envoyés au roi. Jerez ne veut pas se risquer à les décrire, là je parle d'un chroniqueur, mais ils sont trop nombreux. Il cite quand même un pied de maïs avec ses épis, le tabouret en or de tout à l'heure, une fontaine, des tuyaux par lesquels l'eau s'écoulait dans un bassin également en or, des oiseaux, toutes sortes de choses bien sculptées, bien travaillées. Et il n'a pas précisé le nombre de statues, comment tout cela a été fait, si c'était des reliefs ou quelles étaient les scènes qu'on pouvait décrire. Mais selon Chalicuchima, il va y avoir encore à Jaura, c'était quelque chose qui provenait de l'héritage du grand-père de Huayna Capac, un jeu en or avec des lamas, avec leurs bergers. Enfin, il y avait des fibules, il y avait des figures qu'on portait autour du cou, tout ce qui se mettait sur les vêtements de tous ces officiers incas, ces plaques d'or qui brillaient au soleil. Tout cela était parfaitement, adroitement martelé. On trouvait des bracelets ciselés de main de maître qui représentaient des scènes en bas-relief. Oui, cet or de Caramarca, il a maintenant changé de maître. Il a été fondu. Mais vous verrez la prochaine fois, il ne porte pas chance. Non, il n'a pas porté chance à ses nouveaux possesseurs.